page Facebook VOA Afrique.
Bonsoir à tous, il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. On commence par la RDC où l'armée annonce avoir libéré plus de 150 otages du groupe armé des forces démocratiques alliées la semaine dernière dans le nord-est du pays. Et toujours en RDC, un étudiant a été tué samedi à Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo alors que la République démocratique du Congo est confrontée à une troisième vague de COVID-19. Honoré Chama, étudiant de la faculté des lettres de l'Université de Kinshasa, était en tournage d'une vidéo dans le cadre de travaux pratiques en comédie. Un policier lui a demandé de porter son masque pendant le tournage. Explique Patient Odia, son camarade présent lors de l'incident. Toujours en RDC, l'armée qui annonce avoir libéré plus de 150 otages du groupe armé des forces démocratiques alliées. Au Nigeria, des hommes armés qui avaient enlevé début juillet 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du pays ont relâché 28 nouveaux adolescents selon un des responsables de cet établissement secondaire chrétien. Le 5 juillet dernier, des hommes armés ont envahi dans la nuit les dortoirs du lycée Baptiste Bethel, situé à Chikono, dans l'état de Kaduna, avant de kidnapper ses pensionnaires âgés entre 10 et 19 ans. La région éthiopienne d'Amhara appelle tous ses citoyens armés à se mobiliser contre les rebelles du Tigré, où la guerre fait rage, selon les médias locaux. Dans une communication diffusée ce dimanche, le président de l'Amhara, Agenyehu Teshager, évoque une campagne de survie pour cette région qui borde le sud du Tigré. Les deux régions s'opposent depuis des décennies au sujet notamment d'une zone de terre fertile devenue un enjeu clé de cette guerre. Le démarrage des élections en Somalie prévu aujourd'hui est au centre d'une crise politique qui agite depuis des mois, le pays. Et ce démarrage a été retardé aujourd'hui, donc, ont indiqué des sources officielles interrogées par l'agence France Presse. Manifestation de plusieurs milliers de Tunisiens contre leurs dirigeants, notamment contre le principal parti parlementaire ENADA, alors que le pays est pris en étau entre un pic épidémique meurtrier des luttes de pouvoir au sommet de l'État. Les transporteurs aériens israéliens, Israël et El Al, ont lancé aujourd'hui des lignes commerciales directes entre Israël et le Maroc, 7 mois après la normalisation des relations entre les deux pays. 80 migrants, dont 20 enfants, ont été secourus alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur deux embarcations distinctes, indiquent les autorités françaises. Les services de sauvetage en mer ont d'abord été contactés par une embarcation de migrants se signalant en difficulté, puis par un navire marchand qui l'a avisé d'une autre embarcation de migrants à la dérive au nord de Calais, a indiqué la préfecture maritime de la Manche dans un communiqué. Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson en Inde s'est alourdi à 127 morts ce dimanche, selon les autorités, les sauveteurs recherchant toujours des dizaines de disparus. Les combats dans la province du Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, ont déplacé au cours du mois écoulé quelque 22 000 familles, a indiqué le représentant sur place du ministère des Réfugiés. Pendant ce temps, les États-Unis vont poursuivre leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes si les talibans poursuivent l'offensive qu'ils mènent depuis le début mai en Afghanistan. C'est en tout cas l'avertissement donné par le chef des opérations militaires américaines dans ce pays. Il a fait aujourd'hui à Kaboul. Les États-Unis, qui briguent un quatrième sacre olympique d'affilée, ont bien mal débuté leur campagne aux Jeux de Tokyo, battue par la France 83-76, qui a réédité son exploit du quart de finale remporté au Mondial 2019 dimanche à Saitama. Nous sommes donc en basketball. La superstar américaine de la gymnastique, Simone Biles, s'est qualifié aujourd'hui donc pour les 6 finales au programme des épreuves des Jeux olympiques de Tokyo et a notamment terminé en tête du concours général malgré les erreurs inhabituelles chez celle qui avait remporté 5 médailles à Rio en 2016. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu et c'est sur notre site VOA.
Voix et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions, la deuxième et dernière partie consacrée ce soir à la vie ecclésiale, sociale et politique du cardinal Laurent Monsengwo Kasinya. La mise en onde est assurée par Lionel Namilagalima, au micro, Eric Van Lachiza. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, décédé à 81 ans, a été inhumé mercredi dans les caveaux de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, où de nombreuses personnes en larmes lui ont dit un dernier adieu. L'enterrement a eu lieu à l'issue de la messe qui a été dite par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, entouré de quatre autres cardinaux africains, des dizaines d'évêques, de nombreux prêtres et des fidèles. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ainsi que plusieurs responsables politiques africains, ont pris part à cette célébration. Monseigneur Ouédraogo a salué la mémoire d'un serviteur infatigable de la parole de Dieu et de l'homme qui a œuvré pour le bien-être de sa patrie entière. Monseigneur Monsengwo est décédé le 11 juillet près de Paris, où il avait été évacué quelques jours plus tôt pour des soins. Mardi, le prélat défunt avait eu droit aux hommages officiels et populaires au siège du Parlement. Il avait alors été décoré à titre posthume par M. Tshisekedi pour les éminents services et mérites rendus à la nation congolaise. Le chef de l'État déposait la médaille de l'ordre sur le cercueil du prélat défunt après la lecture de l'ordonnance présidentielle, l'élevant à titre posthume au titre de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Né le 7 octobre 1939 dans la province de Maïndombe, c'est dans l'ouest de la RDC, Monseigneur Monsengwo fut l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC et ses aïrs, celui de Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. À Minneapolis, dans le Minnesota, le père Jean-Pierre Bongila, il est fondateur et actuel directeur du programme international de leadership à l'Université Saint-Thomas. Son dernier ouvrage est intitulé « Grounding Leadership Ethics in African Diaspora and Election Rights ». Monsieur Bongila, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Je vais essayer de traduire en français l'intitulé de votre ouvrage. J'ai fondé l'éthique du leadership sur la diaspora africaine et les droits électoraux. Je ne sais pas si j'ai été si d'aide à la traduction.
Si, c'est bien fait. C'est bien fait, merci.
À Philadelphie, en Pennsylvanie, le professeur Jean-Claude Géréqué, d'origine ivoirienne. Il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Il est auteur de plus de 15 ouvrages. Je retiens notamment l'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire, publié en 2001. Les hommes d'église et le pouvoir politique en Afrique noire, publié en 2009. Les évêques et les événements politiques en Côte d'Ivoire, 3 tomes, publié également en 2009. Bonsoir, professeur Géréqué.
Bonsoir, Eric.
Vous enseignez présentement la littérature et les cultures africaines à Brynmawr College, c'est à Philadelphie.
Tout à fait.
Le cardinal Monsengwo avait notamment été un des proches conseillers du pape François jusqu'en décembre 2018. Monsieur Bongila, est-ce qu'il avait l'accord et le soutien du pape François dans son action politique?
Oui, je pense qu'il avait l'accord. Bon, disons que nous ne pouvons pas tout savoir, mais il y a l'accord tacite qui devait être là. Autrement, je pense pas que c'est quelque chose qu'il allait continuer à faire. Il était parmi les 9 meilleurs conseillers du pape François. Il était parmi les 13 qui étaient au complet pour l'élection du pape. Donc, s'il a continué ses actions dans la politique, ça signifie qu'il était en directe correspondance, en directe communication avec le pape. Donc, je crois que le pape François l'a appuyé. Il est question du changement dans un pays. Il est question, comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, du peuple qui est en train de souffrir, de la richesse du peuple qui est en train d'être volé, le peuple qui est en train d'être matérialisé par ses propres dirigeants. Le prophète ne doit pas se taire, et je crois que si le prophète parle en faveur de son peuple, le pape François doit être d'accord avec ça. Et je crois que c'était avec la bénédiction du pape François qui va continuer ses actions politiques.
Professeur Jereke, le prophète doit dénoncer, doit parler, mais on voit beaucoup de prophètes qui se taisent, beaucoup de pasteurs, non pas dans le sens des évangéliques. Ceux qui ne le font pas, ils ne jouent pas leur rôle, selon vous. Est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme entre le Vatican et le clergé local pour qu'il y ait une interpellation quelconque et pousser ce clergé à jouer pleinement son rôle?
Je voudrais confirmer ce que disait Bonguila à propos du soutien du pape François à Monsengo. Je confirme cela. Il avait pleinement le soutien du pape. Et je pense que c'est important. C'est important ce soutien-là. Parce que je voudrais faire un parallèle avec la Côte d'Ivoire, mon pays. Et c'était du temps de Jean-Paul II. Il y a eu la basilique de Yamoussoukro, construite par Oufoué, en pleine crise économique. Et je me rappelle que l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Bernard Yago, et son auxiliaire étaient contre cette basilique. Et ils étaient contre la consécration de la basilique par le pape Jean-Paul II. Parce qu'ils disaient que, bon, on était en pleine crise, il y avait le chômage. Et donc, il était scandaleux que, pendant ce temps, on construisait une église avec des milliards. Mais le pape n'a pas écouté ça. Donc, beaucoup de gens ont perçu ça comme un lâchage. Hein, ils ont eu l'impression que le cardinal Bernard Yago n'avait pas été soutenu par son patron, entre griffes, par le pape Jean-Paul II. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça dommage. Donc aujourd'hui, quand François soutient Monsengo et tous ces évêques et cardinaux qui donnent de la voix, parce que bon, le peuple est martyrisé, le peuple souffre, hein, le peuple est spolié, moi, sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Moi, je pense que les autres évêques africains devraient comprendre qu'ils ont donc un pape qui vient justement d'un continent où il y a eu ce genre de problème. C'est-à-dire les richesses du pays étaient entre les mains d'une minorité, d'une poignée de personnes. Et donc, François, il connaît bien cette situation-là, parce que la situation que nous vivons en Afrique n'est pas très différente de celle de l'Amérique latine. Et donc, je ne suis pas surpris qu'il ait apporté son soutien à Monseigneur Monsengo. Donc moi, je souhaite que les autres évêques, et surtout les évêques de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils comprennent ça et qu'ils emboîtent le pas à Monsengo. Parce que ce que je vois pour l'instant n'est pas encourageant. Les gens se taisent. Hein, par exemple, chez moi en Côte d'Ivoire, voilà, pendant 9 ans, on a eu une dictature féroce. Voilà, mais le cardinal, bon, était plutôt, je dirais, l'ami, le conseiller du dictateur. Hein, alors que, bon, s'il avait donné de la voix, bon, il aurait eu le soutien du pape et le peuple serait vraiment content. Bon, mais grâce à Dieu, là, il y a eu le premier congrès du clergé ivoirien à Yamoussoukro, là, pendant 4 jours. Et c'est lui, le cardinal Jean-Pierre Coutouin, qui a dit la messe de clôture. Et j'ai été heureux qu'ils disent que voilà, les prêtres doivent dénoncer les injustices qui mettent la société. C'est un discours nouveau. Et j'espère que ça va galvaniser donc beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres.
Que les médiocres dégagent, a déclaré Monseigneur Monsengo en 2018 après plusieurs marches de l'Église réprimées dans le sang. Monsieur Bonguila, est-ce qu'il pose un problème de leadership du pays? Les médiocres, c'est qui?
D'abord, j'ai appris ce que le professeur Jéréki a dit. Il a pleinement raison que les pasteurs, je veux dire les évêques, devraient prendre le devant pour dénoncer le mal qui arrive à leur peuple, le mal que le peuple s'inflige à lui-même, et surtout le mal que les dirigeants infligent à leur peuple. Les médiocres dont Monseigneur Monsengo parlait, en ce moment-là, il s'adressait à Kabila et c'était à la veille des élections, je pense, de 2011. quand Kabila avait forgé, il voulait forger encore, il voulait rectifier la constitution pour qu'il fasse un second mandat. Et il a parlé très fort. Et moi, je veux dire, a parlé très fort. Et les gens, en ce moment-là, ont pris la voie de la rue pour manifester. Et comme pasteur, il a dit que les médiocres devaient dégager. Et tout le monde avait applaudi. Tout le monde savait en ce moment-là que c'était clairement dit. Les médiocres, c'était Kabila et son régime. Et tous ceux qui pactisaient avec lui pour voler les biens du pays, pour détruire les infrastructures du pays et pour s'emmagasiner de biens, pour mettre tout ça dans leur poche, alors que le peuple souffrait et l'économie était en déconfiture. Donc, ce sont ceux-là, les médiocres, qui devaient quitter. Les médiocres, en fait, médiocres intellectuellement, et médiocres moralement, psychologiquement. Et ce sont ceux-là des médiocres. Disons, Kabila, il s'applique, et tous ceux qui l'appuyaient. Et si nous devons étendre ça un peu plus, peut-être qu'il faut aller jusque avoir la communauté internationale qui appuyait en ce moment-là, ou qui se taisait. Parce que vous vous taisez, ça signifie que vous êtes en train d'appuyer ce qui se fait, et qui appuyait tacitement Kabila. Donc, tout le monde a vu en eux les médiocres dont Monseigneur Monseigneur parlait.
Vous êtes professeur de leadership. Est-ce qu'il posait un problème de leadership du pays?
Oui, le leadership du pays a toujours été un grand problème. Parce que nous avons eu des gens qui sont venus comme autocrates, qui sont venus comme pseudo-transformateurs, et qui en fait n'ont pas transformé, et qui n'ont vu le pays comme une ferme privée, même une ferme privée. On laboure, on fait en sorte que vous ayez encore de la récolte les années qui viennent. Mais c'était comme des pillards de mercenaires qu'on a eu à la tête du pays. Quand vous avez des pillards de mercenaires, ça ce n'est pas le leadership. Ce leadership a vraiment manqué. Et nous allons, si nous parlons sur du côté éthique, du côté moral, absolument il n'y avait pas de leadership moral, de leadership éthique. Et le pays est en train de continuer sur cette lancée-là. Mais au moins, avec la dénonciation que Monseigneur Monsengo et les autres faisaient, on sentait qu'il y avait quand même comme un lointain ou une lointaine lueur d'espoir. Les gens ont continué à vivre de cet espoir-là. Mais à vrai dire, le leadership a manqué pendant toutes ces années ici. Nous pouvons avoir un leader, mais disons que c'est des leaders qui ne sont pas des leaders moraux. Des gens qui ne voient que leur propre bien, leurs propres intérêts, et qui ne voient pas l'intérêt du peuple qu'ils doivent en principe servir. Donc, pour revenir à ce que je disais, peut-être je peux me corriger un peu, parce qu'on dirait que Hitler était leader. Mais quel genre de leader? C'était un leader amoral. Et c'est ça que nous avons un peu connu pendant tout ce temps ici, de leaders qui ne voyaient que leur propre bien, et si on va plus loin, certains pourraient dire des leaders amoraux. Mais nous avons besoin de leaders qui sont transformationnels. Nous avons besoin de leaders comme Monsengo qui, lui, suivait une théorie là, qu'on appelle le passport, le leadership, qui est en train de vivre avec son peuple, de conduire son peuple vers des goals meilleurs. Et pour lui, le premier goal meilleur, c'était la démocratisation. Ce leadership, nous n'avons pas ça encore.
Eric Manirakiza, tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com, sans oublier la page Facebook. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Il est sans vide, est-ce que sera comblé?
Sans vide, je dirais non et oui. Non, comment? Monseigneur était un leader charismatique. Ça signifie qu'il avait déjà en lui certains traits, certaines caractéristiques d'un leader. Son personnage faisait confiance, sa parole faisait confiance, sa manière de parler, son courage faisait confiance. C'est ça que j'appelle le leader charismatique. Et tout le monde reconnaissait en lui un intellectuel, un érudit. Donc ce côté-là, il est complètement irremplaçable. De un musicologue comme lui, un érudit, 14 langues, un grand professeur comme lui, le premier à avoir sa thèse en sciences publiques de l'Institut de Jérusalem, le premier africain. Tout cela, et la bibliothèque sociopolitique dont on parle, ça c'est irremplaçable. Mais de l'autre côté, nous avons comme le remplaçant phare, Monseigneur le cardinal Fridolin Mbongo, qui lui a côtoyé aussi le cardinal Mosengo, et qui a sa fougue aussi, et qui a ce genre d'amour là de dénoncer et de voir son peuple avancer. Donc nous pensons que d'un côté il pourra être, il est d'une manière ou d'une autre, surtout pour l'engagement politique, il peut être bien remplacé, pas de la manière dont il le faisait, mais il peut être bien remplacé par l'actuel cardinal.
Professeur Jean-Claude, est-ce que vous pensez que ça a été, disons, cette motivation qui a milité pour son choix, c'était plutôt un autre qui était pressenti pour le remplacer à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa?
Oui, j'ai lu il y a quelques heures une interview de son successeur, Monseigneur Mbongo, et il disait que dans la conférence épiscopale, il a senti très vite qu'il avait des atomes crochus avec le cardinal Mosengo. Et donc, je pense qu'il va marcher dans son sillage. Mais je voulais revenir sur ce que disait Jean-Pierre sur les leaders, le leadership. J'ai vraiment aimé cette formule de Mosengo en 2018, en janvier 2018. Il est temps que les médiocres dégagent et que règne la paix et la justice en RDC. Je crois que ça fait penser à ce que disait Jean-Paul II en 1983 à Port-au-Prince, à Haïti, hein, devant Duvalier, le dictateur Jean-Claude Duvalier. Il faut que ça change ici. Vous voyez, la formule était brutale, mais courageuse. Et je reviens encore au courage de Monseigneur Mosengo. Il faut vraiment être courageux pour dire des choses comme ça. Il est temps que les médiocres dégagent. Et malheureusement, ce n'est pas seulement à RDC, mais un peu partout en Afrique francophone. Je dis bien francophone, hein, parce que j'ai eu la chance de visiter quand même l'Afrique anglophone. C'est pas la même chose. C'est chez nous, surtout en Afrique francophone, que nous avons des leaders médiocres. Et moi, quand je dis leader médiocre, je pense à des choses précises. Vous voyez, Monseigneur Mosengo, il est mort où? Il est mort en France. Parce que dans ce Congo-là, qui a d'immenses richesses minières énergétiques, il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Vous voyez? Donc il est obligé d'aller en France. C'est une honte. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ouattara, pour un oui ou non, dès qu'il a un petit bobo, il faut qu'il aille en France. Alors que nous avons des richesses, on peut construire des hôpitaux. On a de bons médecins, mais ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour travailler. Vous voyez? Et c'est ça, les leaders médiocres. Ouais, donc, ce n'est pas seulement en RDC. C'est un peu partout en Afrique francophone. Nous avons des leaders médiocres, des gens qui ne pensent qu'à eux. Quand ils sont malades, quand leur famille est malade, ils préfèrent aller à Bruxelles ou voilà, à Paris, hein, à l'hôpital, n'est-ce pas, américain, à l'hôpital militaire américain. Mais c'est une honte. Et le peuple, il va faire comment s'il est malade? Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, que Mosengo ait dit ça, moi, vraiment, je lui tire mon chapeau. Je dis bravo. Parce qu'il faut le dire. Il faut que les pasteurs aient le courage de le dire.
Professeur Jean-Claude, jusqu'où peut aller l'immixtion du clergé dans les affaires publiques? Y a-t-il une limite à cette immixtion?
Oui, oui, il y a une limite. Il y a une limite. Et la limite, c'est que le pasteur, que ce soit le prêtre ou l'évêque, le pasteur doit savoir qu'il est là pour l'unité de la communauté ecclésiale. Et donc, à ce titre-là, il doit éviter de diviser la communauté. Il est l'homme qui doit rassembler. Donc même si les sympathisants de tel ou tel leader politique, parce que ça, il ne faut pas être hypocrite, hein. Nous tous, nous sommes proches de X ou Y. Donc ça, je veux dire qu'il ne faut pas être hypocrite. Donc même s'il a des sympathies pour tel ou tel leader, en tant que chargé de l'unité de la communauté ecclésiale, il ne doit pas diviser la communauté. C'est-à-dire que, bon, mais il ne va pas, dans ses homélies par exemple, hein, parler de tel ou tel leader. Non, je crois qu'il doit éviter ça. Donc c'est ce que j'appelle les limites, vous voyez. Une autre limite, c'est par exemple, tu vois, prendre sa carte dans un parti politique ou bien militer ouvertement dans un syndicat. Non, je crois que le prêtre ne va pas faire ça. Parce que s'il fait ça, il divise automatiquement la communauté ecclésiale, qui comprend justement des gens de sensibilités politiques différentes. Dans l'église, il y a tout le monde. Hein. Il y a les gens de l'opposition, il y a les gens du parti au pouvoir. Et le prêtre, le pasteur, l'évêque doit faire attention à ça.
On ne monte pas les gens contre les autres, monsieur Bonguila, c'est ça? Quelles sont les limites?
Ah oui, je pense que le professeur Jereke a raison. Il est facile comme humain de s'enfermer dans les limites tribales, les limites ethniques et les limites politiques. Et le prêtre, le pasteur doit être au-dessus de toutes ces limites-là. Nous en avons vu qui, malheureusement, ont été pris au piège de ces carcans-là et qui ont fait priorité à leur propre ethnie, à leur propre tribu. Et c'est la division qui s'en suit. Et quand il y a la division, le peuple de Dieu le sent très facilement et immédiatement. Et on n'est pas là pour l'unité, mais pour la division. Les limites, c'est qu'il y a une autre limite qu'on doit considérer, c'est que les pasteurs, les prêtres, les évêques ne sont pas politiciens. Ils ne sont pas des politiciens professionnels. Ils doivent, c'est pas toujours facile de rester dans leur rôle de prophète dont nous avons parlé ici. Vous dénoncez, mais ça doit être de manière authentique et de manière vraie, de manière impartiale, je voulais dire. Et vous annoncez l'évangile, mais pour ce qui est de l'engagement, vous engagez dans une certaine mesure. Vous n'allez pas vous engager comme un chrétien politicien s'engage dans la politique. Les prêtres, les pasteurs, vous n'avez pas la direction directe de l'État ou de la chose publique. Donc c'est là qu'on doit faire la limite de la chose. Et c'est parfois difficile de le faire parce qu'on se dit, bon, si je ne m'engage pas, qu'est-ce que mon peuple dira? Nous avons vu par exemple avec le cardinal de Philippines, sans son engagement, Marcos ne serait jamais tombé. Il s'était engagé lui-même, il a marché avec son peuple. Mais son intention, en fait, c'était pas de prendre le pouvoir, comme Monsieur Ngola dit ici, parce qu'il pense que son pouvoir divin est de loin plus fort que le pouvoir humain. Donc c'est là que la limite doit être vraiment tracée, tout en s'engageant qu'on n'aille pas jusqu'à aller de l'autre côté du Rubicon. Ça signifie que n'allez pas jusqu'à avoir l'amour de ce pouvoir et l'avoir et l'exercer directement comme feront les politiciens. En ce moment-là, vous manquez même le respect de votre propre peuple. Le peuple vient vers vous parce que le peuple sent que vous êtes impartial. Vous pouvez parler au nom de Dieu, et quand vous parlez au nom de Dieu, la parole de Dieu atteint tout le monde. Vous ne choisissez pas. Dans le cas de Mossengo, par exemple, il a dénoncé les méfaits de Mobutu, de Kabila, de Tshisekedi, de tout le monde. Mais s'il était un partisan de Mobutu, par exemple, ou un partisan de Kabila, le père, ça aurait été difficile pour que le peuple lui fasse confiance, pour qu'on lui donne la confiance qu'il avait. Donc c'est là vraiment la limite de ne pas aller jusqu'à pratiquer la politique comme le feraient des politiciens chrétiens.
Vaillant soldat du Christ, repose en paix, nous prions pour l'âme de notre archevêque émérite de Kinshasa, a écrit sur Twitter l'abbé Jean-Marie Condé, chargé de la communication de l'archidiocèse de Kinshasa. Le pape François a rendu mardi un hommage appuyé à l'influent archevêque émérite de Kinshasa, évoquant le courage et la contribution significative d'un homme très impliqué dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo. Exprimant sa tristesse dans un message de condoléances, le souverain pontife a décrit le cardinal Laurent Monsengo Passigna comme un homme épris de justice, de paix et d'unité, figure écoutée et respectée, un homme attentif aux besoins des fidèles, rempli de courage et de détermination, qui s'est toujours engagé pour le dialogue et la réconciliation de son peuple. Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions. Merci à nos invités, le père Jean-Pierre Bonguila de l'Université Saint-Thomas à Minneapolis. Merci.
Merci Eric.
Le docteur Jean-Claude Jereke de Bryn Mawr College à Philadelphie. Merci.
Merci Eric.
Lionel Brunamiragahima a assuré la mise en onde. Eric Manirakiza à la présentation. Bonne soirée et à la prochaine.